Note à l'auditeur. Cet épisode comporte un vocabulaire et du contenu réservé aux adultes et pourrait ne pas convenir à certains auditeurs sensibles.
Anna Warren est morte 3 mois après que Paolo l'ait opérée. Ses parents étaient dévastés. Elle n'avait que 2 ans.
Ils ont écrit une super publication sur Facebook presque immédiatement.
Ils ont écrit sur sa vie hors du commun, bien qu'elle ait été si courte. Après tout, Anna n'était pas censée survivre après la naissance. Et les débuts des nouveaux types de transplantation sont toujours périlleux.
Comme tout le monde le sait, grâce à l'histoire de la médecine, vous perdez toujours des patients au début de ce genre de choses. C'est arrivé avec tous les types de greffes, les greffes cardiaques, les greffes pulmonaires. Il va toujours y avoir des problèmes au début. C'est inévitable, c'est comme ça qu'on apprend. Ils ont donc choisi de voir Anna comme une pionnière dans ce domaine stimulant et que tout n'était pas perdu. Parce qu'au début, on leur avait dit qu'elle ne vivrait pas après l'âge de 6 ans.
Avec la mort d'Anna, Benita a également dû prendre une décision sur ce qu'elle allait faire du documentaire. Son projet de suivre l'histoire inspirante d'un chirurgien spécialisé dans les transplantations qui a sauvé la vie d'un bébé n'avait plus de fin heureuse.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au fond, on ne savait pas quoi faire. On a mis l'histoire en suspens pour un moment.
Benita et ses collègues ont décidé qu'ils devaient changer radicalement l'orientation du documentaire.
C'était injuste d'amener des spectateurs dans une aventure qui se termine par la mort de cette magnifique petite fille qu'ils ont suivie pendant 2 heures. Donc, pendant un certain temps, on ne savait pas quoi faire. Et puis, on a commencé à parler de transformer l'histoire, de se concentrer un peu plus sur Paolo, sur son travail et sur d'autres patients.
Sa détermination face à la tragédie la fascinait et la rendait encore plus décidée à terminer le documentaire.
Il n'arrêtait pas de me dire « Maintenant, j'ai un ange sur mon épaule et à chaque fois que je vais au bloc opératoire pour pratiquer une autre opération, je sais qu'Anna est là avec moi. » Et j'ai trouvé ça assez incroyable, en fait. Et ça m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui.
Pour terminer son documentaire, elle devait continuer à travailler en collaboration avec Paolo. Mais les sentiments qu'elle éprouvait pour lui posaient un réel problème éthique. Elle s'est donc tournée vers une amie pour obtenir des conseils.
On était dans sa chambre et c'est là qu'elle me le dit.
Annette Freeman avait travaillé avec Benita en tant que productrice à NBC.
J'ai regardé Annette puis je lui ai dit « Je fais quoi? Je devrais faire quoi? J'ai cet homme qui est fou amoureux de moi, dont je suis folle amoureuse, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire? » Tout semble confus et je ne sais pas quoi faire.
Annette lui a dit franchement
Tu ne peux pas. En tant que journaliste, on ne franchit pas cette ligne-là. On ne peut tout simplement pas faire ça. Si tu couvres un sujet, tu le couvres de manière objective.
Benita savait que son amie avait raison et elle a dit à Paolo qu'elle devait mettre un terme à leur romance.
J'ai dit on ne peut pas être ensemble tant que l'histoire n'est pas terminée. C'est trop compliqué. Je pensais que l'histoire était terminée et maintenant on devait encore travailler dessus. Et j'ai juste dit, c'est mieux si on n'est pas ensemble, on doit attendre. Et il était furieux et vraiment contrarié. Il m'a supplié de ne pas faire ça.
Mais Paolo ne voulait pas abandonner.
Il m'appelait, il m'écrivait des courriels pleins d'émotions.
C'est tellement douloureux tout ça et c'est triste, je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Mais c'est quoi mon erreur? De t'aimer vraiment? Et il a terminé par une mise en garde. Je m'arrête ici parce que je t'aime et je réalise que je suis presque au point de rupture. Tu es sur le point de franchir la ligne.
Mais j'ai tenu bon et j'ai continué à me dire « je ne peux pas » jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Je ne peux pas le voir et donc je ne l'ai pas vu.
Mais même son amie Annette, qui était contre cette relation, a vu combien il était difficile de résister à Paolo.
Je crois au miracle, je crois à la magie, je crois en l'amour. J'avais l'impression que tout irait bien. Pourquoi j'y aurais pas cru?
Pour Wondery, je suis Anne-Sophie Roy et vous écoutez le Docteur La Mort, l'homme miracle. Vous écoutez l'épisode 2, La société secrète des chirurgiens internationaux. Quelques semaines après avoir repoussé Paolo, Benita a eu un problème de santé. Son médecin avait trouvé des fibromes dans son utérus. Elle avait besoin d'une intervention pour les retirer et les faire analyser. Alors qu'elle se rétablissait à l'hôpital, elle a reçu deux messages. D'abord, son médecin qui lui donnait le feu vert, les tumeurs étaient bénignes. Et l'autre venait de Paolo.
Il n'arrêtait pas de dire « Je veux venir te voir, je veux venir à l'hôpital. » Et je continuais à dire non.
Mais allongée dans son lit d'hôpital, la détermination de Benita a commencé à faiblir.
Ensuite, je me souviens de m'être allongée dans le lit à l'hôpital. Je venais juste d'apprendre que j'étais OK. J'avais eu tellement peur du cancer, peur pour ma santé. J'avais traversé tellement de choses cette année-là. Et je me disais que cet homme-là est dans une chambre d'hôtel, à un kilomètre de moi, et je lui ai dit « Tu ne peux pas venir. » Mais il attend là-bas parce qu'il m'aime et qu'il veut savoir comment je vais. Et je me suis dit « C'est stupide. » En fait, qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans la vie? En bout de ligne, ce n'est pas le travail, c'est l'amour. En fait, on veut tous être aimés. Et là, je me suis dit « Je ne peux pas le repousser. Je ne vais pas faire ça. »
Elle lui a texté de venir.
Et donc, il est venu. Et il tenait une rose rouge, il s'est penché, il m'a tendu la rose et il a embrassé ma joue et il m'a dit « Je ne bougerai pas d'ici. »
Assise à côté d'elle, la mère de Benita était sous le charme.
Ma mère était juste là et ne l'avait jamais rencontrée. Et elle était totalement folle de lui. Je me souviens que quand il est parti, elle était très, très enthousiaste et il avait un peu flirté avec elle comme il sait le faire. Il est revenu le jour suivant et il poussait mon fauteuil dans les couloirs de l'hôpital parce qu'après une importante opération abdominale, ça prend un petit peu de temps là, pour se relever, pour marcher. C'est difficile. Et je me souviens que d'autres personnes, le patient à côté de moi, disaient à quel point il était gentil. Et à partir de ce moment-là, j'ai cédé. Rendu là, on avait fini le documentaire et à ce moment-là, j'ai capitulé.
Éthique journalistique. Son propre jugement.
Je n'avais plus envie de me battre. Je voulais juste être avec lui et être entourée d'amour.
Après ça, les choses se sont accélérées. Tout d'abord, Paolo a rencontré ses amis, parmi eux Nancy, Karen et Annette.
Il a redécoré et peint son appartement. Qui fait ça?
Who does that?
Il y avait cette célèbre pub de bière qui était sortie depuis un moment et c'était une scène genre « Voilà l'homme le plus intéressant du monde ».
C'était comme si ses amis ne pouvaient pas s'empêcher d'être attirés par lui.
Il dégageait quelque chose de lumineux, un charisme magnétique qui attirait tout le monde. C'est presque comme s'il était surélevé de quelques centimètres, qu'il pouvait conquérir toute la salle. Il était aussi bon que ça.
That's how good he was.
Il les a amenés au resto et a payé l'addition. Et entre les plats, Paolo se donnait en spectacle.
Paolo a demandé à ce qu'on joue de la bachata. Je pense que c'était de la bachata et on savait que Paolo n'était pas vraiment un danseur parce que Benita nous l'avait dit et elle aurait aimé ça qu'il le soit.
Ça allait être intéressant.
Bref, Paolo se lève, va chercher Benita et commence à danser la bachata avec elle comme un pro.
Annette était époustouflée. Mais elle n'a pas eu le temps de réfléchir parce que Paolo l'a regardée et a traversé le plancher de danse.
Puis il vient me chercher, je danse la bachata avec lui. Après, il est allé chercher une de nos amies, il a dansé la bachata avec nous. Il était, je veux dire, il était vraiment doué.
Paolo a expliqué qu'entre ses essais cliniques en Russie et ses interventions chirurgicales dans le monde entier, il avait pris un peu de temps pour des leçons de danse.
Il m'a dit « Je prends secrètement des leçons en Russie depuis 3 mois. Je suis allée 3 fois par semaine. » J'ai dit « Quoi? » Il m'a dit « Je l'ai fait pour toi. Je sais à quel point tu aimes danser et je veux pouvoir danser avec toi. »
Paolo était la star.
J'en revenais pas. Je me disais « Tu te moques de moi, là. » Quoi? Je veux dire, on parle de quelqu'un qui est attaché à toi à ce point-là. C'était incroyable. Pour moi, c'était comme, OK, Benita, il est génial.
Oh, Benita, he's great!
Alors qu'il se rapprochait, Paolo a confié un secret à Benita. En dehors de son essai clinique en Russie et de ses responsabilités à l'Institut Karolinska, il y avait autre chose. Un réseau de clients privés de renom qu'il voyait en secret.
C'est très discret, c'est très clandestin, c'est vraiment confidentiel.
Lorsqu'il a dit à Benita qui était sur la liste,
elle en a eu le souffle coupé. Des leaders mondiaux, des stars d'Hollywood.
Il m'a dit qu'il ne m'en avait jamais parlé avant à cause de qui étaient ces gens-là. C'était essentiel pour eux de tout garder secret et clandestin et qu'ils ne pouvaient pas me dire quoi que ce soit, ils devaient garder ça secret. Et ça avait un sens pour moi à cause de qui il était. C'était un chirurgien célèbre qui travaille dans ces cercles-là. Il travaille avec des personnes qui demandent qu'il soit discret.
Chaque fois que Paolo devait la quitter pour aller voir ses clients privés, aller en Russie ou chez lui à Barcelone, il s'assurait de garder le contact.
Il parle 6 ou 7 langues et il avait environ 5 ou 6 téléphones, ce qui fait qu'il avait plein de cellulaires qu'il transportait toujours avec lui.
Une fois, lorsqu'il était à New York, l'une des amies de Benita lui a demandé...
Elle a dit « Pourquoi t'as autant de téléphones? » Il a répondu « Ben, j'ai un téléphone russe pour mon travail en Russie, j'ai un téléphone suédois pour mon travail en Suède. » Et maintenant, j'ai un téléphone américain à cause du temps que je passe avec Benita. Il avait un téléphone italien parce qu'il était originaire d'Italie et son ex-femme était en Italie avec ses enfants à l'époque et il avait aussi un téléphone espagnol. Il avait au moins 5 téléphones. Et à ce moment-là, lorsque mon ami l'a interrogé sur tous ses téléphones, il était assis au comptoir de la cuisine et il avait ses téléphones alignés là, sur le comptoir. Puis elle a dit « Pourquoi? » C'est un peu bizarre. Comment tu peux avoir besoin d'autant de téléphones? Et il a juste répondu, c'est plus simple comme ça.
Plus tard, c'était les vacances. Paolo a emmené Benita et sa fille pour un voyage magique aux Bahamas. Puis Benita et lui sont partis en escapade romantique en Turquie, au Mexique, en Suède et à Porto Rico.
T'es sûr qu'on n'est pas en lune de miel? On s'est mariés, j'ai oublié. Devine quel type de nuit on va passer.
Oui!
Éteins ça maintenant.
Paolo a demandé à Benita de venir avec lui en voyage en Russie.
Je lui ai dit que je ne pensais pas pouvoir voyager.
Elle avait du mal à se débarrasser d'une infection due à l'opération qu'elle avait subie un mois auparavant. Mais elle n'avait jamais visité la Russie et voulait vraiment y aller. Alors elle a consulté son médecin.
Et puis l'infection s'était suffisamment résorbée pour que mon médecin me dise « Vous allez bien, vous pouvez voyager ».
Ils ont passé leur voyage à visiter et à faire les boutiques. Mais un soir, alors qu'ils se préparaient pour aller manger, c'était clair que l'infection n'avait pas disparu.
J'ai commencé à sentir une douleur horrible, perçante.
Au début, elle a essayé de supporter la douleur en espérant tenir jusqu'au dessert. Mais c'était juste trop.
Je me souviens avoir serré la main de Paolo sous la table et je l'ai regardé et j'ai dit « Mon amour, il y a quelque chose qui ne va pas. »
Un air d'inquiétude a traversé le visage de Paolo. Il lui a dit « Ça va bien aller. » Il s'est levé de sa chaise, a payé l'addition et a attrapé son manteau.
Je pouvais à peine marcher, à peine monter dans le taxi.
Ils ont pu retourner à la chambre d'hôtel.
Il m'a dit « Allonge-toi sur le lit. »
Benita a retiré ses vêtements du mieux qu'elle pouvait pour qu'il puisse voir sa blessure.
Il a regardé la plaie, puis il m'a regardé. Il m'a dit « Tu me fais confiance? » Je l'ai regardé et j'ai dit « Apporte-moi un autre verre de vin. »
Paolo lui a souri et il s'est dirigé vers le mini-frigo. Il a sorti une bouteille de vin, puis a rempli un verre jusqu'au bord et lui a tendu.
Je l'ai bu d'un coup. Il me demandait où étaient mes petits ciseaux de voyage. J'avais des ciseaux que j'utilisais pour couper les pansements avec lesquels je couvrais la plaie. Je lui ai dit « Ils sont dans la salle de bain. » Il est allé dans la salle de bain, il les a pris, et puis il les a nettoyés avec du peroxyde ou quelque chose comme ça là, pour les « stériliser ».
Il est retourné vers elle, l'a regardé dans les yeux.
Il m'a dit « Est-ce que tu as confiance en moi? » J'ai juste hoché la tête, il a pris les ciseaux et il les a plongés dans ma plaie.
Paolo lui a dit qu'en ouvrant la plaie, il libérait le pus de son incision et que ça l'aiderait à guérir. Elle l'a cru parce qu'elle lui faisait confiance. Entre deux escapades romantiques avec Paolo, Benita avait travaillé d'arrache-pied pour mettre la dernière touche à son documentaire intitulé « A Leap of Faith », un acte de foi. Presque un an et demi après qu'elle l'ait contacté pour la première fois, c'était enfin bouclé. Un hommage de 2 heures sur le pouvoir de la médecine régénérative et sur les exploits du docteur Paolo Macchiarini. Ça devait être diffusé sur NBC devant des millions de téléspectateurs. Personne ne se doutait que la productrice sortait aussi avec l'intervenant principal. Benita a célébré l'événement en louant une salle de projection et en invitant quelques dizaines d'amis. Elle s'est assise au fond avec Paolo, les lumières se sont éteintes et le film a commencé. Meredith Vieira animait l'événement.
Un enfant taquin, un ancien danseur, un garçon au sourire rayonnant, voilà les patients courageux qui s'engagent au nom de la science.
Si je ne survis pas, ça pourrait aider d'autres personnes.
Et voici le médecin audacieux et déterminé à leur donner cette chance.
Et je pense que tout le monde l'admirait à cause de ce qu'il savait de lui et ce que j'avais dit. C'était une chose de m'entendre dire « il a fait des greffes révolutionnaires, il y a la petite fille, etc. » Mais de regarder l'émission spéciale et de comprendre à quel point c'était important et ce que ça signifiait et le potentiel et à quel point ce qu'il faisait était révolutionnaire, risqué, radical et à quel point il était un pionnier, ben ça a coupé le souffle à tout le monde.
Certaines personnes ont pleuré, d'autres l'ont remercié, d'autres l'ont embrassé.
Et je me souviens que la mère d'une de mes amies était là et elle l'a serré dans ses bras, elle l'a remercié pour le travail qu'il faisait, elle l'a remercié de faire des choses qu'aucun autre médecin était prêt à faire. C'était comme s'il était le héros ce soir-là.
Avec la sortie du film, la relation de Paolo et Benita était maintenant publique et ce n'était plus une simple fréquentation. Le soir de Noël 2013, Paolo, Benita et sa fille étaient ensemble à la maison. Alors qu'ils étaient assis autour du sapin, Benita sentait que quelque chose se tramait. Sa fille avait un sourire complice. Paolo a donné une petite boîte à Benita.
Et ma fille a commencé à rire. Je l'ai regardée et j'ai dit « Qu'est-ce qui te fait rire? »
Sa fille a souri et lui a dit de l'ouvrir.
J'entendais ma fille ricaner derrière moi, ce qui fait que j'ai ouvert la boîte et c'était une bague magnifique. Et à la seconde où j'ai regardé la bague, j'ai su que c'était pas juste une bague. C'était une superbe bague en diamant. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai dit « Est-ce que c'est ce que je pense? » Il a dit oui. J'étais bouche bée, littéralement sans mots. Mes doigts tremblaient un peu lorsque j'ai déchiré le papier et que j'ai ouvert la boîte très lentement. Et quand j'ai ouvert et que j'ai vu cette magnifique bague, j'étais comme « Wow! » La scène était vraiment touchante juste parce qu'on était à la maison et qu'il n'y avait que nous trois. C'était très intime. Je n'aurais jamais imaginé que ça se passerait comme ça.
Paolo et Benita étaient fiancés.
Il y avait un charisme, une énergie bien à lui. Lorsqu'il entrait dans une pièce, son charisme était palpable, le genre de choses qu'on ne peut pas simuler.
Amanda Fox connaissait Benita depuis près de 10 ans. Elles se sont rencontrées lorsqu'elle était elle aussi productrice à NBC. Elle aimait voir son amie si à l'aise avec son nouveau copain.
J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dire ça, je ne penserai pas. Elle est une personne très soignée physiquement, toujours très soignée. Maquillage parfait, cheveux parfaits, tout ce qu'elle porte, les vêtements parfaits. Elle est arrivée sans être parfaitement soignée, elle était fatiguée, elle était un peu décoiffée, son maquillage n'était pas parfait. Pour n'importe qui d'autre, ça voudrait rien dire, mais c'est pas habituel pour elle. Il est arrivé, elle a juste dit « Salut, comment tu vas? » et elle a posé ses pieds sur ses jambes.
Mais quelque chose chez lui semblait étrange. Il avait un comportement qui dégageait plus que de la confiance en lui. Il dégageait de l'arrogance. Quand son mari et elle les invitaient, Paolo dominait la pièce.
La façon dont il se tenait sur une chaise, par exemple, il venait d'arriver chez nous, il était appuyé les bras écartés comme si c'était sa maison. Je ne sais pas comment décrire ça.
C'était plus une intuition. Elle n'était pas sûre qu'il y avait assez à dire pour en parler à Benita.
J'étais inquiète d'en parler à ses amis parce que j'avais l'impression d'être la seule à avoir des doutes et je voulais pas faire éclater le bonheur de quelqu'un.
Elle a donc fait part de ses inquiétudes à Annette.
Et quand on comparait nos avis sur Paolo, mes inquiétudes à son sujet, mes impressions étaient très différentes des leurs. Je savais pas si on était d'accord.
Amanda a décidé de ne pas en parler à Benita.
J'ai décidé de me taire.
Au lieu de ça, elle a suivi les préparatifs du mariage.
Il m'avait dit depuis le début qu'il voulait se marier en Italie, que c'était très important pour lui et qu'il voulait avoir un grand mariage catholique. Et je lui ai dit dès le départ, comment ça va fonctionner? Parce que je ne suis pas catholique. Et je ne sais pas grand-chose sur la religion catholique, mais je connais l'Italie. Et je sais que les églises sont très strictes et je pense pas que ça va être simple. Et il me répondait, t'inquiète pas, on va s'arranger.
Ils ont cherché ensemble des villas en Toscane, ce qui a émerveillé Benita. Mais Paolo n'était pas satisfait. Il voulait que les choses soient plus somptueuses, plus élaborées. Et c'était stressant pour Benita. Alors un jour, Paolo est venu la voir avec une proposition différente.
Il m'a dit, écoute, j'aimerais ça te proposer quelque chose. Laisse-moi prendre en charge l'organisation du mariage.
Benita était stupéfaite.
J'ai dit, quoi? Dans ma tête, je me disais, OK, attends une minute. Quel homme sait organiser un mariage? Et ce n'est pas censé faire partie de toute l'affaire pour moi aussi. Et j'ai dit, en fait, je sais pas. Je sais pas quoi dire.
Mais Paolo a insisté.
Il disait avec un sourire sur son visage, tout ce que je veux, c'est que tu trouves ta robe, que tu te présentes et que tu sois belle. C'est la seule chose dont tu dois t'inquiéter.
Il n'y avait qu'une seule petite condition.
Il m'a fait promettre. Si tu es d'accord, voilà les règles. Tu ne poses aucune question. Je te dis ce que tu dois savoir quand tu as besoin de le savoir et j'ai besoin que tu sois d'accord avec ça.
Paolo était le maître de la surprise, des cadeaux, des voyages vers des destinations inconnues. Mais là, c'était un autre niveau.
Donc j'ai dit, oui, d'accord, je te promets, je ne vais pas poser de questions. Et c'était difficile. J'ai dû ravaler les questions de nombreuses fois, j'ai dû étouffer l'envie de googler les choses. Et je ne l'ai pas fait parce que je lui avais fait cette promesse-là. Et bien sûr, il y avait une partie de moi qui aimait l'idée d'être surprise. J'aime les surprises et la perspective de ce qu'il allait faire et de ce que ça allait être était excitante.
Tout ce que Benita allait devoir faire, c'était de ne pas poser de questions. Mais Paolo avait quelques problèmes. Il voulait un mariage catholique, mais il était divorcé, et Benita aussi. Et elle n'était même pas catholique.
Il m'a dit, je ne trouve toujours pas d'endroit pour se marier. Je n'arrive pas à trouver un prêtre qui va nous marier. Encore une fois, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux faire quoi?
Mais Paolo avait un plan.
Il a dit, je vais demander quelques faveurs à Rome. J'ai dit, OK. Je savais que Paolo avait quelques contacts au Vatican.
Il a dit à Benita qu'il avait aidé à soigner le pape Jean-Paul II et que le pape actuel faisait partie de sa liste de patients VIP.
Alors, quand il a dit « Je vais demander des faveurs et parler à des gens à Rome », j'ai demandé « Ben, tu vas où? » Puis il a répondu « Je vais aller au Vatican. » J'ai dit « OK. » Et il a dit qu'il irait au Vatican pour voir si quelqu'un là-bas pouvait nous aider à trouver un prêtre qui nous marierait. Il disait « Il doit y avoir quelqu'un. Le Vatican doit pouvoir trouver quelqu'un qui va contourner un peu les règles, même si t'es pas catholique, et je vais trouver quelqu'un qui va nous marier. »
Le lendemain, Benita travaillait dans les bureaux de NBC au Rockefeller Center à New York lorsqu'elle a reçu un appel de Paolo.
Il m'a demandé de sortir et il a dit, j'ai une grande nouvelle pour toi, j'ai trouvé quelqu'un, ils ont trouvé quelqu'un, ils vont nous aider à nous marier. J'ai répondu, c'est génial.
Paolo lui a dit de s'asseoir.
J'ai répondu, je suis debout dans le hall du Rockefeller Center, il n'y a nulle part où s'asseoir. Il avait l'air un peu nerveux, comme un petit garçon. Il était tout excité. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il va me dire?
Ce que Paolo lui a dit était presque impossible à croire. Tellement incroyable, en fait, que même certaines de ses amies ont eu du mal à être convaincues.
Il est italien, il est catholique, et il voulait se marier à l'église.
Elle a appelé quelques amis sur FaceTime, dont son amie Lee, qui vivait à l'autre bout du monde, en Australie. Et elle a enregistré la conversation pour la postérité.
J'ai eu une éducation épiscopalienne. Il y a environ un mois, il a passé une journée à Florence pour visiter différentes églises pour en trouver une qui lui plaise. Il n'a rien trouvé qu'il aimait ou on lui a dit non à cause des religions différentes. Alors il a dit, je vais aller en parler à mes contacts à Rome. Mais attends, avant qu'il parte, j'ai dit, alors, tu vas parler à qui à Rome? Tu vas où à Rome? Et là, il a dit, au Vatican. Non, mais attends. Alors que je lui ai demandé qui l'allait voir au Vatican?
Il pape.
What?
Because I'm a Catholic, I can say that.
Il va donc parler au pape. Il reste là pendant 4 heures et je me dis de quoi il peut lui parler pendant 4 heures. Je deviens folle.
losing my mind.
Donc, il m'appelle pendant que je suis sur le chemin du travail, puis il m'a dit quelque part au milieu de la conversation que le pape a dit « Je serais heureux de vous aider à trouver un endroit », puis un peu plus tard dans la conversation, il a dit « Et si moi, je le faisais? »
Oh mon Dieu!
Non, non, attends, je présente pas. Le pape va nous marier.
En vérité, Benita n'avait pas cru Paolo non plus quand il lui avait dit. Mais ensuite, elle a fait des recherches.
Et ce qui est apparu assez ironiquement, c'est que le pape François avait très récemment marié tout un tas de couples au Vatican. Et dans les reportages sur le mariage de ces couples-là, on disait des choses comme « Le pape vient de marier un grand nombre de couples qui vivaient dans le péché, et c'était tous des couples qui, entre guillemets, vivent dans le péché pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils avaient été divorcés ou autre chose. » Alors, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Bah, OK. » C'est pas si improbable. Completely
implausible. En plus, Paolo était tellement enthousiaste à ce sujet-là. Et que dire des voyages extravagants, des amis célèbres?
This is Pope Francis, who was... Le pape François est extrêmement progressiste. Il essaie de faire sortir l'Église de vieilles traditions et de la rendre plus ouverte d'esprit et plus ouverte en général. Alors j'ai pensé, d'accord, peut-être que ça a du sens.
I thought, okay, maybe this kind of makes sense.
Lee?
Toi et moi, on se planifie un voyage.
Et c'est là que ça devient un peu plus sérieux. Il a dit qu'il serait heureux de faire ça pour nous, mais avec une petite requête.
Une requête?
Vu que Paolo est également divorcé, on va être le premier couple divorcé qu'il ait jamais marié dans une église. Et il veut qu'on communie tous les deux ce qu'aucun couple divorcé n'a jamais été autorisé à faire dans une église. C'est donc genre historique. Je dois aller au Vatican et me confesser avec lui.
Oh,
sorry.
So, now.
Attends. T'as dit que vous vous mariez en juillet? T'es sûre que ça sera assez long pour te confesser d'ici là?
Le pape lui-même allait donc les marier en Italie. Et ce n'était pas tout.
À cause qu'il fait ça, les Obama vont venir aussi.
Oh, arrête! Nous deux aussi, on vient.
Je sais pas qui d'autre vient, mais John Legend va chanter à l'église. Bref, inutile de dire que ça s'est transformé.
Les jours suivants, elle en a parlé à d'autres amis.
Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je le disais à quelqu'un, il lui fallait un moment pour y croire. Mais tout le monde y a cru.
Tout le monde, sauf Amanda.
Je lui ai dit que ça avait l'air insensé.
Benita lui a tout expliqué. Il était le médecin du pape. C'était une faveur personnelle.
J'en ai immédiatement parlé à mon mari et on a tous les deux pensé que c'était complètement absurde et mon mari a tout de suite eu des doutes. Mais sa phrase la plus marquante, c'est quand il a dit « Soit c'est l'Église catholique qui est sur le point de partir en fumée, soit c'est la vie de Benita. »
Mais c'était la vie de Paolo qui allait être bouleversée. C'était l'action de grâce et Benita était sur le point de présenter Paolo à son père pour la première fois. Le jour où Paolo devait arriver à New York, Benita regardait son téléphone lorsqu'elle a lu un titre du New York Times qui l'a interpellée. Un chirurgien de premier plan est accusé de mauvaise conduite dans des opérations de transplantation expérimentale.
En gros, l'article dit qu'il est accusé d'inconduite scientifique à Karolinska. Et c'était très sérieux. Enfin, c'est dans le New York Times. Évidemment que c'est très sérieux.
Un prestigieux institut médical suédois a ouvert une enquête sur un chirurgien considéré comme un pionnier dans le domaine de la médecine régénérative. Des plaintes signalaient qu'il n'aurait pas eu d'autorisation éthique pour des opérations expérimentales et qu'il aurait trompé des revues médicales sur le succès de ses procédures. Benita a commencé à penser au fait que Paolo était très différent ces derniers temps. Sur les nerfs.
Il se comportait bizarrement depuis environ un mois et il avait fait allusion à des personnes qui essayaient de lui nuire. Et ces personnes-là étaient jalouses de lui.
Lorsqu'elle l'a questionné à ce sujet-là, tout ce qu'il disait, c'était
« Je déteste ce gars-là, il veut me faire couler, je ne vais pas me laisser faire. » C'était pénible.
Le nom du médecin était Calé Grinemo.
Je me souviens une fois, il était assis sur le lit avec son ordinateur, il avait des papiers à côté de lui, il a lu quelque chose et il a commencé à sacrer. Il a fermé brusquement son ordinateur et il a jeté les papiers sur le lit, sur le sol. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et il a répondu « C'est juste que je déteste ce gars-là. Il veut me faire tomber, puis je vais pas me laisser faire. »
Elle n'avait jamais vu Paolo comme ça, en colère, amer et hors de contrôle. En lisant la gravité de ses allégations, notamment dans le New York Times, elle a commencé à devenir furieuse.
J'étais énervée, j'étais vraiment en colère. Je suis sa fiancée. J'ai toujours été à ses côtés. Je l'ai écouté se plaindre à propos de ce médecin-là et j'avais l'impression qu'il me cachait quelque chose.
Quand Paolo a atterri à New York, il l'a appelé.
Il m'a appelé lorsqu'il est descendu de l'avion et il m'a dit « Bonjour, mon amour, je viens d'atterrir. » Et la première chose que je lui ai dit, c'est « C'est quoi cette affaire-là dans le New York Times et pourquoi je suis pas au courant? Pourquoi tu m'as pas parlé de ça? Ah, on s'en reparlera quand je serai là, blablabla. Je voulais pas te contrarier. »
Ils sont allés rendre visite à la famille de Benita comme prévu, mais les pensées de Paolo étaient ailleurs. À un moment donné, ils étaient chez le frère de Benita et Paolo a reçu un appel et est sorti de la pièce pour le prendre.
Il est sorti pour parler au téléphone et il est revenu et ma belle-sœur a dit qu'il pleurait, presque des sanglots. Et donc tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Et c'est là que j'ai su que je devais l'aider.
Paolo était là pour elle lorsqu'elle avait besoin de lui. C'était l'occasion pour elle de l'aider.
Je me suis dit, il est injustement attaqué et il faut que je l'aide.
Elle a pris la situation en main. Ils sont retournés dans leur hôtel de luxe avec son escalier en colimaçon, ses meubles baroques, et ils ont transformé la table à manger de leur suite en cellule de crise.
J'ai pris mon ordinateur, un bloc-notes et des stylos. Il s'est assis de l'autre côté de la chambre sur son propre ordinateur et on a commencé à travailler sérieusement.
Benita savait que les procédures de Paolo étaient controversées, mais elle avait vu sa passion et sa détermination. Elle croyait en ce qu'il faisait.
Il était en colère, il marmonnait épais, gros con de journaliste, qu'il aille chier avec ses questions. C'était un sentiment qui enveloppait toute la pièce. C'est comme s'il avait été au sommet de sa carrière et que les choses commençaient à s'effondrer. J'avais l'impression que les murs de la pièce commençaient à se resserrer autour de nous.
Pendant les heures qui ont suivi, elle essayait de le calmer en regardant tous les courriels qu'il recevait pour lui demander un commentaire ou une entrevue.
Je me souviens d'un journaliste scientifique qui avait écrit un long courriel dont les questions étaient très bien documentées, très directes et très troublantes à lire parce qu'il s'interrogeait sur toutes sortes de choses. J'ai arrêté de lire plusieurs fois, je regardais Paolo et je lui disais « Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Et comment est-ce qu'il sait ça? Et comment est-ce qu'on est passé de la faute scientifique à ces questions-là sur un problème sur telle greffe ou un autre sur telle transplantation? »
Elle a aidé à répondre à presque toutes les demandes. Elle espérait que ce soit terminé et qu'ils pourraient mettre tout ça derrière eux. Alors que le tapage autour de l'article disparaissait, Paolo semblait se calmer. Quelques semaines plus tard, il lui a envoyé 7 roses pour symboliser les 7 mois qui restaient jusqu'au jour du mariage. Avec le pape qui officierait pour leur mariage, la réception prenait de plus en plus d'ampleur. Paolo devait lui envoyer les dernières nouvelles.
Il partait en Italie pendant 2 jours pour rencontrer un garde suisse pour un rendez-vous au Vatican pour rencontrer les services secrets.
Benita pouvait à peine suivre toute l'organisation. Il y avait encore plus d'événements, plus d'invités, plus de robes.
Il me fallait une robe de style tapis rouge pour le vendredi soir. J'avais besoin aussi de 2 robes différentes pour le mariage parce qu'il voulait que j'aie ma robe de mariage et ensuite que j'aie une robe plus adaptée pour la danse qu'on devait faire. Il voulait une danse de mariage très élaborée et il voulait que je vienne dans une magnifique robe de bal. Et puis, il voulait pouvoir arracher la jupe de cette robe-là pour révéler un petit ensemble sexy en dessous pour l'une des autres danses qu'on allait faire. Je me suis tellement concentrée sur toutes les robes et toutes les choses que je devais acheter, sur les invitations, que j'étais heureuse qu'ils prennent en charge l'organisation du mariage puis qu'ils s'occupent du reste.
Mais à mesure que le jour J s'approchait, un nœud se formait dans l'estomac de Benita.
Il a dit qu'il voulait que ma fille et moi déménagions à Barcelone. Il avait cette belle maison et il ne voulait pas voyager tout le temps, que ce serait vraiment plus facile si nous venions vivre à Barcelone.
Elle n'était jamais allée à Barcelone, et pas par manque de volonté, au contraire.
On avait prévu un voyage à Barcelone et puis soudain, il a été appelé pour une opération et on n'a pas pu y aller. Ou sa maison à Barcelone était en travaux. Il y avait toujours une raison. Donc, ça a toujours été une sorte de question en suspens le moment où on irait à Barcelone. Mais c'était le seul endroit où on n'était jamais allé.
ce qui signifie qu'il n'avait jamais rencontré ses enfants.
Et il a continué à m'attirer en disant combien la vie en Espagne est belle et la superbe maison qu'il avait, en me disant que je pourrais me détendre, que je pourrais toujours écrire là-bas, que je pourrais toujours travailler là-bas, mais sans avoir la pression de devoir gagner de l'argent. Il a décrit l'Espagne et Barcelone comme étant des endroits idylliques et avec un mode de vie agréable et relaxant.
Alors, elle a accepté.
J'allais quitter ma vie à New York, quitter mes amis de New York, quitter un travail que j'aimais et dans lequel j'étais très bonne, pour partir au soleil couchant avec lui à Barcelone et m'embarquer dans une toute nouvelle vie.
Mais elle n'était toujours pas prête à quitter son emploi à NBC. Les jours passaient et finalement, c'était la dernière fois qu'elle entrait au 30 Rockefeller.
J'étais ici depuis 16 ans et je n'aurais jamais imaginé partir. Et je n'aurais jamais imaginé partir pour aller me marier.
L'endroit était rempli de souvenirs.
Ma fille a fait ses premiers pas au 30 Rockefeller.
La première fois qu'elle a entendu parler de Paolo Macchiarini.
J'étais rongée par la nervosité, l'incertitude et la tristesse. Et j'avais été tellement heureuse et absorbée par mon conte de fées dans mon petit nuage, dans cette romance magique-là. Et soudain, c'est ce jour-là que ça m'a frappée, je quittais cet endroit-là. Je ne reviendrai peut-être jamais. Et l'inconnu et l'incertitude de ce qui m'attendait, c'était effrayant, en fait.
Elle n'avait pas froid aux yeux en soi, mais l'énormité de ce qu'elle faisait la frappait. Elle était prête à quitter son emploi, sa maison, sa vie, pour être avec un homme qu'elle connaissait depuis moins de 2 ans.
En fait, tout était en jeu. J'abandonnais ma carrière, j'abandonnais mon travail. Je déracinais ma fille vers un pays étranger. Et tout à coup, ce jour-là, pendant mon dernier jour de travail, j'ai pensé, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai eu une sorte de crise de panique. J'ai pensé, mais qu'est-ce que je fais?
Dans ce type de situation, Benita savait exactement quoi faire. Le lendemain matin à 9 h, Benita et quelques-unes de ses plus proches amies sont arrivées à Manhattan pour aller au spa.
On avait décidé de passer la matinée au spa. On devait se faire masser et prendre un bon repas pour fêter ça.
Elles ont fermé leur téléphone et les ont rangés dans leur sac pour éviter toute distraction.
On s'est fait masser, puis ils ont ce magnifique salon relaxant où il y a toutes sortes de chaises qui s'inclinent, des fauteuils de massage. On était toutes là, puis je riais aux larmes, presque trop, là, comme ça se peut pas.
Après qu'on leur ait dit de se taire pour la 4e fois, elles ont décidé qu'il était temps de partir.
Et donc, on s'est habillés, puis je suis allée au comptoir principal pour payer. J'ai payé pour toutes mes copines pour les remercier. Et en tendant ma carte de crédit à la réceptionniste, j'ai sorti mon téléphone en même temps.
Fidèle à son plan, Benita n'avait pas regardé son téléphone la matinée.
Et là, j'étais en train de parcourir mes textos, etc. Et puis, je vais voir mes courriels et sur le premier qui apparaît, l'objet dit « le pape ».
Le message provenait d'un collègue. Mais quelque chose dans l'objet du message lui a fait éprouver un mauvais pressentiment. Elle a ouvert le courriel.
« Le pape ne sera pas en Italie à la date de votre mariage. Il va être en Amérique du Sud. » Et il y avait un lien vers un article de presse détaillant son itinéraire en Amérique du Sud. Et ça disait également que ce voyage était prévu depuis un certain temps. Quand j'ai lu le courriel, j'ai eu l'impression que quelqu'un me frappait dans l'estomac. C'était comme si tout l'air de mes poumons s'était échappé et j'ai essayé de prendre une grande respiration. Mais j'ai cru que j'allais vomir.
Elle sentait son monde s'effondrer autour d'elle.
Il y avait une toute petite partie de moi, cette partie de moi fantaisiste, délirante, rêveuse, amoureuse, qui pensait que peut-être qu'il y avait une explication à tout ça. On s'accroche à ce petit espoir parce qu'il est difficile de se rendre compte que tout n'était que mensonge.
À suivre dans le prochain épisode de cette saison de Docteur la Mort, l'homme miracle. Pour Wondery, vous avez écouté l'épisode 2 de 6 de Docteur la Mort, l'homme miracle. L'histoire d'un médecin qui a promis une révolution de la médecine régénérative qui a tourné au cauchemar. Si vous voulez nous aider à faire connaître la série, donnez-nous une note de 5 étoiles et n'oubliez pas d'en parler à vos amis.
Écoutez Docteur La Mort sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme de balado. Également disponible en primeur et sans publicité sur Amazon Music ou en vous abonnant à Wondery Plus sur Apple Podcast ou sur l'application Wondery. Dans les commentaires de l'épisode, vous trouverez les liens et les offres de nos commanditaires. Merci de les encourager. Docteur La Mort a été écrit, publié et animé par Laura Beale. Cette version est animée par Anne-Sophie Roy. Produit par Nika Singh, qui a également couvert cette histoire. Vérification des faits par Jacqueline Coletti. Assistante de production, Fiona Pestana. Directrice de production, Lata Pandia. Supervision musicale, Scott Velasquez. Design sonore, Salt. Producteur exécutif, George Lavender, Marshall Louis et Jen Sargent pour Wondery. La version québécoise est réalisée et mixée par Anne-Sophie Carpentier, Philippe Séguin et Bastien Gagnon La France avec la participation de Joannie Henry de Cube Radio.